seconde, c'est-à-dire que aujourd'hui les européennes n'existent pas encore, mais je vais être un peu plus clair et je commence d'abord pour dire que je suis ravi d'être ici et ça me fait beaucoup de plaisir de voir que dans cette salle il y a pas mal de jeunes, donc ça veut dire que au moins les jeunes générations voient en Europe, j'espère, et donc c'est un bon signe. Pour répondre à votre question, je pars de loin, c'est-à-dire que vous savez peut-être qu'on célèbre cette année en Italie le 150e anniversaire de l'Italie. Et à l'époque, quelques années après que l'Unité d'Italie avait été faite, un homme politique, un intellectuel italien qui s'appelle Massimo D'Azeglio avait dit la première nécessité pour l'Italie est de voir se former des Italiens dotés de caractères forts et élevés. Mais malheureusement, chaque jour qui passe nous amène vers la tendance contraire. Malheureusement, on a fait l'Italie, mais on n'a pas fait les Italiens. Après, la phrase est tournée comme ça, l'Italie ayant été faite, il faut faire des Italiens. On peut répéter la même question, et on a posé la question, quand ce qu'on appelle aujourd'hui Union européenne a commencé, c'est-à-dire avec le nom de Communauté européenne, à la suite du traité de Rome de 57, là, à l'époque, faire les européennes était beaucoup plus facile, parce que finalement c'était une petite communauté à 6, il y avait la France, l'Italie, l'Allemagne, les Benelux, donc à 6, c'était relativement facile de créer un esprit européen parmi la population et un enthousiasme européen aussi. Il faut considérer qu'on était justement dans la fin des 50, début des années 60, donc il y avait aussi cet esprit très spécial de la reconstruction de l'Europe après la guerre. On parlait à l'Italie, de l'Italie du boom économique. Il y a eu les Jeux Olympiques 1960, donc il y avait un énorme enthousiasme pour tout ce qui était Europe. Et il y avait aussi des hommes politiques à l'époque qui croyaient beaucoup dans l'idée de l'Europe. À partir des années 70, et précisément à partir de 73, quand l'Angleterre est entrée dans la Communauté européenne, les choses ont commencé à être un peu plus compliquées. D'abord parce que la Grande-Bretagne a toujours été très spéciale. On disait que quand il y avait du brouillard sur la Manche, le continent était isolé. Et effectivement, les Anglais ont toujours gardé un certain esprit très spécial et un peu de suspicion vis-à-vis de l'Europe. Et jusqu'à présent, parce qu'ils ne font pas partie de l'Europe. Alors là, les citoyens européens ont commencé à être une citoyenne européenne très très spéciale. Il y avait sûrement des citoyennes européennes très convaincues de l'être, et il y avait des autres citoyens européens qui étaient moins convaincus de l'être. Et la recherche justement d'un esprit européen qui devait récupérer un peu ce que pensaient les grands pères fondateurs de l'Europe, je cite Monet, Schumann, Spaak, Gasperi en Italie, Adenauer en Allemagne, retrouver cet esprit devenait de plus en plus difficile. On arrive à un certain moment à concevoir l'idée d'une monnaie unique et on a commencé à travailler dessus et créer d'abord une unité économique et après une unité monétaire. Moi, je suis un journaliste. Je suis président de l'AIM et je reste journaliste, et surtout j'ai fait journaliste pendant 40 ans. Et donc, j'étais à Maastricht la nuit de... Excusez-moi, mais j'ai des problèmes de voix à cause de rhume, mais je disais, j'étais à Maastricht en 91, quand on a signé justement le traité de Maastricht. C'était une nuit assez spéciale, avec un grand enthousiasme, même dans la salle de presse, on avait l'impression d'assister à un événement historique. C'était presque minuit quand finalement on a eu l'annonce que le traité avait été signé, et en même temps, c'était quelque chose, un symbole important, en même temps, quelque chose s'est passé à ce qu'on appelait encore l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire que Yeltsin, qui était le président russe de la République russe, avait envoyé un téléfax à Gorbatchev en disant que la République russe sortait de l'URSS. Donc c'était, d'un côté vous aviez les grands traités de Maastricht signés avec l'esprit communautaire qui ressortait très fort, et de l'autre côté vous aviez l'Union soviétique qui commençait à s'écrouler. Alors on disait voilà, l'Europe qui gagne, et l'Europe qui devient de plus en plus forte. Mais on disait en même temps, si on fait l'Europe économique et monétaire, l'Europe politique suivra. Bon, ce n'a pas été le cas, parce que on s'est rendu compte très rapidement et malheureusement que l'Europe politique ne suivait pas. Moi encore, j'ai toujours des souvenirs personnels, mais ce sont des moments très importants. Il y avait un sommet européen à Lisbonne, et le président Mitterrand, sortant du sommet, quelqu'un lui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Bosnie? C'était le moment où il y avait la guerre faisait rage en Bosnie, et il y avait des bombardements sur Sarajevo, etc. Et vous faites quelque chose, monsieur le président, pour la Bosnie, qu'est-ce qui fait l'Europe pour la Bosnie? Et Mitterrand a dit, on ne peut rien faire, parce que quand on n'a pas les moyens militaires pour assurer une politique communautaire, on ne peut rien faire. Il a été très bon prophète. D'abord, la nuit même, je crois, à la suite de cette question posée par plusieurs journalistes, M. Mitterrand est parti pour Sarajevo. Il a fait une mission solitaire à Sarajevo, très courageuse, symbolique. Je suis là pour vous aider, mais pour vous aider sur le plan moral, c'est tout. Et je ne suis pas là en tant qu'Européen, je suis là comme Français. Voilà. Le symbole était très très important. Et justement, ce n'était pas l'Europe qui a résolu la question des guerres dans l'ancienne Yougoslavie, c'est plutôt les États-Unis de Clinton, qui à un certain moment a convoqué aux États-Unis les trois leaders, Milosevic, Izbegovic et je ne me rappelle pas le nom du Croate, Tudjman, et a dit bon, vous ne sortez pas là, dans une base militaire à Dayton, en Ohio, et il a dit à tout le monde, vous ne sortez pas là si vous ne voulez pas trouver un accord. Mais c'était la défaite de l'Europe, parce que c'était une guerre européenne, dans le cœur de l'Europe, et avec tous les symboles, Sarajevo, la Première Guerre mondiale, etc., etc., que l'Europe n'était pas capable de résoudre, parce qu'elle n'avait pas les moyens, ni politiques, ni militaires. Donc on a vite compris que l'Union européenne existait, mais existait au moins à une double ou trois vitesses peut-être. Il y avait un noyau dur, et après il y avait des autres qui étaient arrivés, mais qui n'étaient pas complètement convaincus d'être partie de l'Europe et européenne. Bon, aujourd'hui, on voit, on est arrivé à l'Europe à 27, et à mon avis, ça a été trop rapide. Je sais que, enfin, j'étais un peu dans une position solitaire quand je disais ça, quand j'écrivais ça sur la République, les journaux que j'écrivais à l'époque. Et je me souviens de la rencontre que j'ai eue avec, à l'époque, il était le président de la Commission italienne, Romano Prodi. Je lui dis, je pense que vous faites vraiment une erreur. J'ai dit vraiment, vous faites une connerie. Et il m'a dit, on ne peut pas dire non, parce qu'il y a des pays qui viennent sortir du communisme, des pays satellites de l'Union soviétique, qui ont besoin de retrouver le chemin vers la démocratie. Donc, il faut les prendre en charge. Il faut les prendre en charge en Europe. Mais les prendre en charge ne voulait pas dire qu'ils devenaient européens. Voilà la différence, la grande différence. Et crois que ce qu'on appelle l'eurozone reste quand même, et pourtant je trouve que c'est déjà trop, 17, mais ce qu'on appelle l'eurozone a quand même un certain esprit européen commun, y compris les Anglais qui restent dehors et qui voudraient quand même à l'intérieur. Ils restent dehors pour des raisons que tout le monde connaît, tout le monde explique. Et Blair surtout, il voulait entrer. Mais je crois que la bourse a dit non, simplement la grande industrie anglaise a dit non. Ceci dit, je crois que la crise qu'on vit aujourd'hui en Europe, cette terrible crise, qui n'est pas seulement de l'Europe, qui est une crise mondiale, c'est un peu le moment de la vérité pour répondre à votre question. Et pour comprendre si vraiment il y aura, pas seulement en Europe, mais un citoyen européen. D'abord parce que hier, à Strasbourg, hier, comme vous savez, il y a eu le contre-attentat. Il y avait M. Sarkozy, Mme Merkel et M. Monti, le nouveau président du Conseil italien, qui a été commissaire européen pendant longtemps, un commissaire très important parce qu'il était commissaire à la concurrence, au marché unique, donc il avait un rôle très important et très respecté. Mais les méthodes de réunion à deux, France-Allemagne, plutôt que maintenant à trois, parce que l'Italie est rentrée un peu comme ça, par la fenêtre, sortie par la porte, avec M. Berlusconi est rentré par la fenêtre. Bon, voilà, l'Italie, justement, Monti a dit, étant un ancien commissaire avec un très fort esprit européen, a dit, ce n'est pas le bon moment. On le fait maintenant parce qu'on a besoin de se voir, de se parler, mais il faut revenir aux méthodes communautaires. Les méthodes communautaires, c'est-à-dire que la Commission d'abord, et les parlements aussi, mais surtout la Commission, c'est vrai, c'est compliqué une Commission à 27. Moi, j'ai des souvenirs d'une Commission à 6, après une Commission à 10, c'était assez facile. En plus, il y a une question de langue. Il y a une question de langue parce que chacun veut faire sa langue dans la Commission, ce qui n'est pas possible. Parce que le travail de la Commission doit être très rapide. Et Monti, un jour, quand il était encore commissaire, il disait, vous savez, d'abord, on parlait français, et tout le monde parlait français ici. Après, on a commencé à parler un peu anglais. Après, on a commencé à parler un peu allemand. Et de plus en plus, on parle allemand, et de moins en moins, on parle français ou anglais. C'est un signe de la puissance de l'Allemagne, évidemment, et de l'impuissance des autres. Mais à 27, travailler avec 7, c'est vachement compliqué. Si on trouve, si l'Europe arrive à s'en sortir, à s'en tirer de cette situation de crise, si on trouve, si on rend plus flexible l'Allemagne, et on s'impose un peu plus à la protection de l'euro allemand, en fait, c'est une marque qui reste telle. Qui veut rester terre, qui veut peut-être revenir. Bon, si on arrive à sortir de ça, si on arrive à retrouver vraiment une méthode communautaire, je crois que peut-être on peut faire les européennes aussi. Mais sinon, on n'a fait qu'une association, un grand club, où chacun pratique son sport. Voilà.
Merci, Paolo Galimatti.